Bon matin tout le monde, ça va bien? J'espère que vous êtes réveillés parce qu'on s'en va dans un passage intéressant, mais peut-être un peu complexe ce matin. Mais on va se préparer pour Pâques. Dans une semaine, on va célébrer Pâques ensemble, puis je veux vous encourager ce matin à prendre du temps dans la parole de Dieu à travers la prochaine semaine, à peut-être aller vers la fin des quatre évangiles, puis à aller relire tout ce moment où Jésus est arrêté, où il va s'offrir en sacrifice, la résurrection. Vous préparez pour Pâques pendant la semaine. Faire quelques lectures bibliques qui vont dans ce sens-là, puis célébrer ça dans votre cœur. Et Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Dans l'année, c'est définitivement la fête la plus importante. C'est vrai qu'on aime célébrer Noël, souligner la naissance de Jésus, mais Pâques, c'est une fête qui est là, qui est biblique, et puis qui représente pour nous vraiment tout l'amour de Dieu dans le sacrifice de Jésus puis dans sa résurrection. Donc, c'est vraiment un moment important pour nous. Et cette année, on a décidé d'aborder Pâques à travers un thème, le thème de la parole. Donc, on le présente en trois temps. La parole qui meurt, la parole qui se donne, puis la parole qui donne la vie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a comme trois événements. Ce matin, on voit ensemble la parole qui meurt. Et vendredi qui s'en vient avec Emmanuel Hippolyte, la parole qui se donne. La parole qui se donne parce que c'est à travers le témoignage de l'Évangile, à travers le témoignage de l'Évangile dans nos vies aussi, qu'on apporte ce message de vie-là. Et je vous encourage à vraiment saisir l'opportunité pour être là vendredi soir, puis inviter vos jeunes aussi à venir, inviter des amis à venir. Et puis dimanche matin prochain, on va voir ensemble la parole qui donne la vie. La parole qui donne la vie. La résurrection de Jésus-Christ qui nous a donné sa vie. Tournez avec moi dans Jean 1, s'il vous plaît. Puis je vais juste faire une petite introduction. Jean 1, c'est particulier comme introduction à un évangile. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça vaut la peine de faire une introduction. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, on a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et les quatre évangiles nous présentent différentes facettes d'une personne absolument extraordinaire. On a quatre évangiles qui nous présentent Jésus, puis différents angles, puis c'est une personne qui est extraordinairement riche. Même on pourrait dire que toute la Bible nous présente Jésus-Christ. Ça serait vrai aussi de dire ça. Mais à travers ces quatre évangiles-là, on a le récit de sa vie ici sur terre, son message, ses enseignements. Et chacun des évangiles présente un aspect différent. Puis les quatre évangiles commencent de manière aussi un peu différente. Alors par exemple, l'évangile de Marc commence comme ceci. « Commencement » de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fait que Marc nous situe, il dit, moi je vais commencer avec le début, à peu près en l'an zéro de notre ère, la naissance de Jésus, c'est là que commence l'Évangile. L'Évangile de Jean, où on va aller ce matin ensemble, commence à peu près avec le même mot, en fait le même mot grec pour commencement, mais c'est un petit peu différent. Jean lui dit, non, moi je vais commencer juste un petit peu plus tôt, un petit peu avant la naissance de Jésus. Au commencement, Dieu. Jean, il dit, si vraiment je dois vous annoncer l'Évangile puis vous aider à comprendre qui est Jésus-Christ, on va aller avant l'an zéro, on va aller au moment de la création de l'univers. Au commencement, c'est le même mot que j'ai. Mais Jean veut nous donner une autre perspective, plus de recul encore sur la personne de Jésus. Et donc, Jean est en train de nous dire, si vraiment vous voulez comprendre la fête de Pâques, si vraiment vous voulez comprendre qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, il faut qu'on aille au début de la Bible, il faut qu'on aille au début de l'univers, parce que Jésus, c'est encore plus que simplement Jésus de Nazareth. Il est plus grand que ça. Et on va chercher à plonger dans cette vérité-là ensemble ce matin. Si vous voulez comprendre qui est Jésus-Christ, sa grandeur de ce que vous allez célébrer à Pâques, il faut remonter jusqu'à la nuit des temps. On va aller dans la prière ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on est assemblés ce matin en Église, comme chrétiens, parce qu'on est tes disciples, parce qu'on t'a aimé, parce que nous t'avons connu, Seigneur. Et Seigneur, pour nous, clairement, il n'y a pas de plus belle et de plus grande révélation de la personne de Dieu que toi, Jésus-Christ. Tu es la révélation absolue, parfaite de la personne de Dieu. Ce matin, je te demande de venir nous rencontrer. Alors qu'on est dans cette semaine de préparation pour la Pâque, que dans nos cœurs, nous soyons attentifs, que nous soyons émerveillés, impressionnés par ta personne, Jésus, par ta grandeur, par ta beauté. Viens, Viens élever ton nom dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, si quelques personnes ici ce matin ne te connaît pas personnellement, intimement comme son Seigneur, son Sauveur, viens te révéler dans leur cœur, Seigneur, viens te révéler à ces gens, afin qu'ils célèbrent Pâques avec nous comme le moment le plus important même dans l'histoire de l'humanité. Parle à nos cœurs, Seigneur, viens te glorifier, aide-nous à comprendre ta parole, élève-nous, Seigneur, et donne-nous un message à partager. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Jean au chapitre 1, versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jean 1, chapitre 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père.
Merci, Jérémie. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé déjà l'année dernière. On est allé dans Jean 1 déjà l'an passé, mais c'est un aspect de la personne de Jésus qui est présenté dans Jean 1, qui est tellement riche, tellement beau, que ça vaut la peine qu'on y retourne puis qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin dans notre compréhension de ce passage-là. Il faut essayer de se reporter et se remettre à l'époque. Lorsque les premiers disciples, ceux qui allaient devenir des disciples de Jésus, ont rencontré Jésus, soit en l'entendant enseigner, soit en le voyant faire des miracles, ou sa manière d'aimer les gens, d'être accueillant envers les gens. Très rapidement, les premiers disciples ont compris qu'ils étaient en contact avec une personne d'exception. Ça sautait aux yeux. Ils ont dit, « OK, attends un petit peu, là. Il faut s'arrêter, puis il faut écouter ce gars-là. Ça, c'est clair. » Puis en fait, en lisant les évangiles, puis en voyant comment Jésus enseignait, puis en voyant ce que Jésus faisait, je me dis, tout le monde qui entrait en contact avec Jésus de près ou de loin devait très rapidement avoir cette conviction-là que c'est un homme exceptionnel. Ça frappait, ça sautait aux yeux, puis j'irais même plus loin, j'oserais dire que encore aujourd'hui, en 2018, n'importe qui, quelles que soient vos croyances, que vous soyez de n'importe quelle religion, que vous ne croyez pas en Dieu, que vous disiez « moi je suis athée », n'importe qui va prendre les quatre évangiles, puis qui va commencer à lire les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je crois qu'encore aujourd'hui, presque tout le monde va dire « OK, peut-être que je ne crois pas à tout ce qu'il y a là, mais ce gars-là était vraiment exceptionnel. Il était vraiment exceptionnel. Alors, pour les premiers disciples qui l'ont côtoyé, puis qui ont marché avec lui, qui l'ont suivi de ville en ville, qui ont entendu à plusieurs reprises ses enseignements, qui l'ont vu faire des choses, qui étaient avec lui constamment, au fur et à mesure, il y avait comme des questions qui venaient dans leur esprit. Évidemment, la première question, c'était, est-ce que vraiment on a le Messie? Parce que voyez-vous, dans l'Ancien Testament, les prophètes des Juifs avaient annoncé qu'un jour, Dieu enverrait un sauveur. Un Messie qui viendrait libérer les Juifs, qui deviendrait le roi des Juifs, puis qui les conduirait. Et donc, c'était la première question à laquelle il devait répondre. Est-ce qu'il s'agit vraiment du Messie? Mais plus les disciples écoutaient, plus ils le voyaient faire des miracles, lorsqu'ils ont assisté à son arrestation, sa crucifixion, le fait qu'il ne se soit pas défendu, qu'il n'ait pas essayé de soulever une armée, qu'il ait accepté ça en remettant son âme à Dieu, le fait qu'il soit ressuscité d'entre les morts, apparu à plus de 500 personnes. Les disciples, à un certain moment donné, ceux qui ont été témoins de ces choses-là, là, plusieurs d'entre eux vont mourir martyrs pour défendre ces choses-là qu'ils ont vues, dont ils ont été témoins. À un certain moment donné, pour les disciples, Jésus est devenu une énigme. OK, c'est le Messie. Oui, c'est le Sauveur, mais c'est plus que ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À un certain moment, il y avait comme plus de catégories pour Jésus. Il n'y a plus comme de qualificatif où tu peux faire cadrer ce personnage-là. On n'avait pas attendu un Messie aussi grand que ça. Les disciples se disaient, ils enseignent avec une autorité qui dépasse n'importe quelle autorité qu'on a entendue, même celle des prophètes, celle des enseignants de la Bible. Il nous fait voir Dieu comme on ne l'a jamais vu. Il l'ouvre. Tout ce qu'il nous enseigne est conforme avec l'Ancien Testament, mais en même temps, il y a comme une facette de la personne de Dieu qu'on n'avait jamais compris. Il nous ouvre des nouvelles fenêtres sur la personne de Dieu carrément. C'est comme s'il y a une fraîche révélation qui nous vient, tout en étant conforme à tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Fait que les disciples se disaient, « Qui est cet homme qui parle avec l'autorité de Dieu? » qui fait des miracles comme Dieu seul peut les faire, qui donne sa vie en sacrifice sur la croix et qui accepte d'être traité comme un misérable criminel. Alors que nous, on l'a côtoyé, il était pur, cet homme-là, il était bon, il était accueillant, il était aimable. Il avait toujours le mot juste, il accueillait les démunis, les marginaux, les gens rejetés par la société. Puis lorsqu'il nous parlait de Dieu, c'est comme s'il avait toujours été branché avec Dieu. Il y avait comme une intimité lorsqu'il nous parlait de Dieu qu'on n'a jamais vu chez aucun prophète de l'Ancien Testament, même chez Moïse. On n'a jamais vu cette intimité-là. C'est comme si ce Jésus-là avait toujours été en communion avec Dieu. Les premiers disciples, en mettant les pièces du puzzle ensemble, inspirés par l'Esprit-Saint, c'est ça que nous croyons les chrétiens, c'est que Dieu est venu inspirer les apôtres dans une compréhension de choses qu'ils ne pouvaient pas saisir avant la résurrection de Jésus, par exemple. Et donc, progressivement, inspirés par l'Esprit-Saint, ils ont commencé à mettre les pièces du puzzle ensemble et commencé à saisir la grandeur de la personne de Jésus-Christ et commencé à comprendre que avant Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu existait déjà. En fait, avant tout, le Fils de Dieu existait déjà. Il était auprès de Dieu. Ils ont commencé à saisir, puis ensuite, conduits par l'Esprit-Saint, ils ont rédigé dans les Saintes Écritures cette révélation qu'on trouve ici dans Jean 1, puis ailleurs dans le Nouveau Testament, qui nous aide à comprendre que avant que Jésus de Nazareth naisse, Dieu, le Fils, existait déjà. On parle ici de deux doctrines fondamentales qui sont vraiment au fondement de la vie chrétienne, au fondement de la foi chrétienne, la divinité de Christ et la Trinité. Et c'est de ça dont on va parler ce matin à travers ce passage-là absolument incroyable. Parce qu'on veut, pendant qu'on se prépare à fêter Pâques, prendre conscience de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et si ma compréhension de Jésus commence juste avec la naissance de Jésus à Nazareth, il va me manquer un grand morceau de l'amour de Dieu pour nous. Ce matin, on va voir ensemble que quand les premiers chrétiens ont compris qui était Jésus-Christ, ils ont compris la grandeur de son sacrifice et la grandeur de l'amour de Dieu. Tournez avec moi dans Jean 1 si vous n'y êtes pas déjà. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole éternelle de Dieu. Certains d'entre vous, pendant deux minutes, là, vous allez avoir l'impression peut-être qu'on fait un peu de la philo. OK? Restez branchés, s'il vous plaît. Parce qu'on ne fait pas de philo ici ce matin. Ce n'est pas de la philo. Il y a des concepts, des fois, qui ont de l'air un peu complexes, mais c'est parce qu'on parle de Dieu. Ça ne peut pas toujours être simple comme à la petite école. L'Évangile est assez simple pour que je puisse la comprendre à l'âge de la petite école. Mais je peux passer ma vie à plonger dans la profondeur de la grandeur de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, puis m'émerveiller devant la complexité, la richesse, la beauté de Dieu. Et donc, ce n'est pas de la philo qu'on fait ce matin. Si ces choses-là vous apparaissent complexes, restez branchés parce que vous voulez admirer, adorer, célébrer la grandeur de Jésus-Christ. Jean nous dit qu'au commencement du monde, au commencement de l'univers, il y avait Dieu et sa parole. Alors, il y avait Dieu qui était là avant que le monde existe. Ça, c'est assez logique, c'est assez simple à suivre. Si Dieu est le même Dieu qu'on a dans la Bible, Dieu est là avant que le monde existe, Dieu préexiste puis il crée l'univers. T'sais? Il est là avant puis il crée toutes choses. Jusque-là, c'est assez simple à suivre. It makes sense, ça va bien. Maintenant, il nous dit qu'il n'y avait pas juste Dieu qui était là, ou pas simplement Dieu qui était là, il y avait plus que ça au départ. Jean nous dit que Dieu n'était pas seul, il y avait Dieu et sa parole. Sa parole était avec lui. Rendu là, on n'a aucune idée de quoi il parle, c'est difficile de deviner, puis encore là, c'est comme ça semble une évidence. T'sais. Yannick est sur l'estrade, puis sa parole aussi est sur l'estrade. Ça va bien. Si je suis là, ma parole est là. C'est avec moi, il n'y a pas de problème. Fait que Dieu était là avec sa parole. Oui, OK, Dieu va parler. Dieu est là, il est avec sa parole. Mais Jean va beaucoup plus loin que ça. Jusque-là, on ne peut pas le savoir. Mais il va beaucoup plus loin que ça. Au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voyez-vous, dans les versets qui suivent, on va voir ensemble que ce dont à quoi Jean fait allusion, c'est vraiment au commencement du monde. C'est vraiment à la création du monde. Puis en fait, Jean est en train de faire allusion au premier livre de la Bible, Genèse 1. Il s'en va vraiment au début. Puis il nous dit, oui, la parole de Dieu était là, vous allez le voir, vous l'avez déjà lu, vous n'avez peut-être pas pris conscience. Pour les Juifs qui connaissaient déjà la Genèse, vous n'avez peut-être pas pris conscience que lorsque Dieu dit, il y avait plus que simplement des mots qui étaient là. Il y avait une richesse plus grande encore qui était là. Genèse 1, je vous lis quelques versets, juste pour vous remettre en contexte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne parlera pas de l'Esprit de Dieu vraiment ce matin. Dieu dit... Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara les lumières d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Assez vite, lorsqu'on lit la Genèse, on comprend que Dieu n'a pas créé l'univers dans un laboratoire. Il ne s'est pas fait un petit laboratoire puis... commencer avec des éprouvettes, à faire des mix, puis à dire, bon, on va faire des expériences. Dieu crée, en latin, ex nihilo, à partir de rien. Fait que, tu sais, toutes les idées modernes, là, ou pop psychologie de visualisation, là, il y en a un qui peut faire ça, il s'appelle Dieu. Il l'imagine, il conçoit, il le dit, paf, c'est là. Et j'ai pas besoin de croire que c'était plus complexe que ça pour Dieu. Je n'ai pas besoin de croire ça. Dieu dit qu'il y ait un étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Dieu dit et la chose est. Parce que Dieu est Dieu. Et donc, dans la Genèse, on voit que Dieu crée à travers sa parole. C'est en disant que la chose apparaît. Dieu veut que la chose soit, puis elle apparaît, elle est là. Bien, Jean nous révèle dans Jean 1 que ce n'était pas simplement des mots qui sortaient de la pensée de Dieu. Cette parole-là, c'était un être qui était avec Dieu et qui était Dieu. C'était une personne. Jean est en train de nous introduire, comme je le disais tantôt, à des doctrines, des fondements de la foi chrétienne. À cette idée que Dieu est plus complexe qu'une seule personne. Il est plus riche que ça encore. Il y a sa parole qui est avec lui. Qui est Dieu, mais qui est avec Dieu. Et plus on avance dans le passage, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 14, on comprend progressivement que cette parole est une personne. Puis lorsqu'on arrive au verset 14, on comprend que cette personne s'est incarnée. Elle est devenue humaine. Mais donc, elle existait avant. Elle était avec Dieu au commencement, à la création du monde, puis elle a pris forme humaine. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ, lorsqu'il devient homme. Jean est en train de nous initier à la doctrine de la divinité de Christ. Il existait avant de naître comme un simple homme. Jésus n'était pas là au commencement du monde, comme homme, mais Dieu le Fils, avant qu'il s'incarne, était là au commencement du monde. C'est important parce que quand je vais méditer cette semaine sur le sacrifice de Jésus à la croix, ce n'est pas simplement un homme qui est venu. C'est celui qui a présidé à la création de l'univers, qui est venu s'incarner, se faire homme, pour s'offrir en sacrifice. C'est le plus beau des sacrifices, c'est le Créateur qui est venu. C'est celui qui crée, qui vient et qui s'offre en sacrifice. Christ est Dieu et il existait avant de naître comme un simple homme. Avant d'être Jésus de Nazareth, il existe déjà. C'est pour ça que dans Jean 8, verset 58, Jésus va dire ceci. En parlant d'Abraham, qui est le père des Juifs, qui est comme bien avant Jésus de Nazareth, tu as Abraham, très longtemps avant, très, très, très longtemps. Puis en même temps, Jésus dit dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, tout le temps. Je suis à l'extérieur du temps. Je suis avant le commencement du monde. Je suis, j'existe. Non pas j'étais, je suis. Comme Dieu s'est présenté à Moïse, je suis. Et donc, Dieu le Fils existe de tout temps. Et c'est lui qui est venu sur la terre. Quel être extraordinaire. Puis on a ainsi une introduction aussi à la doctrine de la Trinité. Parce que cette parole est avec Dieu, mais elle est Dieu aussi. Et donc, Jean est en train de nous initier à cette idée que Dieu est plus complexe qu'une simple personne et qu'il y a plus d'une personne dans la personne de Dieu. Puis je comprends que c'est mystérieux, puis je ne peux pas l'expliquer vraiment. Je peux le constater et je peux adorer mon Dieu pour ça. Je peux adorer Dieu pour sa richesse, sa complexité, sa beauté. Mais je vais vous donner quand même une illustration qui peut peut-être aider un petit peu. C'est, il n'y a pas de bonne illustration, c'est-à-dire parfaite pour illustrer la Trinité. Okay? Ça n'existe pas. Il y a toujours un défaut dans l'illustration. Fait que vous allez trouver des défauts dans mon illustration. Mais suivez-moi, c'est quand même intéressant, je pense. Ça aide à comprendre certaines choses. Si vous avez un couple, un homme et une femme qui sont mariés puis qui sont relativement unis, pas parfaits, là, mais relativement unis, puis ils ont des jeunes enfants. C'est bien tannant des parents qui sont unis quand tu as des jeunes enfants. La Bible nous dit que lorsqu'un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Puis s'il y a quelqu'un qui comprend ça intuitivement, c'est un petit enfant, lorsque les parents sont unis, là, intuitivement. Il comprend que papa puis maman, c'est pas la même personne. Si je veux me chamailler, puis tu habitais dans ma maison, je m'en vais voir papa. Puis si j'ai le goût de me faire consoler, je m'en vais voir maman. Vous m'excuserez les clichés, là, mais c'était comme ça chez nous, d'accord? Fait que si je veux me battre un peu, là, puis j'ai le goût de souffrir un peu, puis de me fâcher, là, je vais aller voir papa, puis on va s'amuser à fond, là, jusqu'à temps qu'il me fasse pleurer tellement qu'on s'est chamaillé. Après ça, je vais aller voir maman pour qu'elle me console, puisque papa, il va dire, ah ouais, deux personnes, très différentes. Mais quand c'est le temps d'être tannant, par exemple, J'ai beau aller voir papa, j'ai beau aller voir maman, c'est toujours la même réponse qui rentre. C'est les parents. C'est les parents. Puis c'est drôle parce que ça me frappait avant avec les jeunes enfants. Maintenant, nos enfants sont beaucoup plus vieux, sont adultes. Puis tu sais, tu vas te dire, ben non, ça va partir avec le temps. Puis pourtant non. Pourtant non. Ça me frappe des fois, je jase avec ma fille en particulier, mais avec mon fils aussi. Puis papa, maman, on est très différents. On a des personnalités, Esther et moi, là, tellement différentes. C'est complètement fou. Avec des richesses qui sont différentes. Mais de temps en temps, j'entends mes enfants dire, vous les parents, là. Puis je sais ce qu'ils sont en train de dire. On sait ce que vous pensez. Vous avez la même pensée tous les deux. Intéressant, hein? Fait que il y a comme quelque chose dans l'expérience de nos enfants qui nous aide à saisir un peu de ce mystère-là de l'union entre un homme et une femme. Ça fait 25 ans qu'on est mariés ensemble. Il y a une communion, une intimité qui fait que on est encore deux personnes, mais il y a comme une espèce d'entité spéciale qui est là, puis nos enfants le saisissent même intuitivement. Je comprends que mon illustration est imparfaite, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, une seule et même pensée, une seule et même révélation. Deux personnes, un seul Dieu. L'Esprit Saint, un seul Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne peux pas vous le rendre plus clair que ça. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement beau, de tellement majestueux dans cette sainte communion-là. Et j'ai besoin d'apprécier ça pour voir tout l'amour du Père qui envoie son Fils, puis pour voir tout l'amour du Fils qui vient se donner, puis ce qui va se passer entre le Père et le Fils lorsque Christ va s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jamais il y avait eu une fracture comme ça dans cette communion-là, jamais, jamais, parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là d'absolument extraordinaire. Maintenant, Jean nous dit que c'est par cette parole qui était auprès du Père que Dieu va créer, que Dieu donne la vie. Regardez les versets 3 et 4. « Toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » C'est par la parole, qui est comme la deuxième personne de la Trinité, que Dieu a tout créé. C'est par Dieu le Fils que Dieu a tout créé. Il a décidé que ça allait être l'expression et que la vie allait venir de la parole. Genèse 1:20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. La vie a émané de Dieu le Fils, de la parole. Il y avait la vie en lui. Il portait la vie en lui et il donnait la vie. On lit dans le psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées parlant des étoiles par le souffle de sa bouche. » Mais quand je comprends qui est Dieu le Fils, puis que je lis ce psaume-là, je m'en vais ailleurs dans mon adoration. Ce n'est pas simplement que j'adore Dieu le Créateur. Je suis en train de rentrer à quelque part dans la Sainte Trinité, puis dans le rôle de chacune des personnes de la Trinité, puis je m'émerveille devant la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas beaucoup de surprise quand tu saisis ça, puis que tu lis après les Évangiles, puis tu regardes comment la parole de Dieu sortait de sa bouche, puis comment il comprenait la parole de Dieu, puis comment il expliquait la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Tout ce qu'il venait faire, c'est expliciter sa propre pensée. C'est ça qu'il venait faire lorsqu'il s'en venait nous donner un éclairage nouveau sur des choses qu'il avait déjà dites, puisqu'il est la parole de Dieu, puisqu'il est la parole de Dieu. Et puis cette parole-là est la parole qui donne non seulement la vie, qui crée la vie dans Genèse, la vie vivante, les animaux, les êtres humains, les fleurs, mais qui donne aussi une vie spirituelle. Quand l'être humain a péché, tout l'univers est tombé sous une malédiction. Il y a un chaos qui s'est entraîné, qui est venu avec ça. Le chaos du péché est entré partout dans le monde. Et lorsque Dieu vient vers le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, puis qu'il commence à se faire connaître à eux, afin qu'eux connaissent Dieu et qu'eux fassent connaître Dieu par le témoignage qu'ils allaient être, la parole qu'il prononce, cette révélation qui vient de Dieu sur qui il est lui, Qui nous sommes-nous? Comment nous, on est appelés à vivre? Comment on est appelés à rentrer en relation les uns avec les autres? C'est ça l'Ancien Testament, c'est ça la parole de Dieu. C'est la parole qui vient de Dieu, qui apporte la vie spirituelle dans le chaos de nos vies. Parce que nos vies sont affectées par le péché. Nos vies sont chaotiques. Chacun d'entre vous, cette semaine, il y a un moment dans la semaine où vous avez probablement dit à l'intérieur ou dit à Dieu, « Seigneur, c'est le fouillis dans ma vie, ça ne marche pas. Viens faire quelque chose avec ça. » Puis ce chaos-là est le fruit, où en lisant les journaux, n'importe quoi, en voyant des vies autour de vous, ce chaos-là, c'est le péché. Puis à travers tout l'Ancien Testament, la parole de Dieu apporte la vie spirituelle, nous donne de savoir quoi faire, comment agir, comment penser, comment se tourner vers Dieu, comment réagir, comment réformer nos vies, comment apporter de la vie dans le chaos de nos vies. C'est vraiment ça l'Ancien Testament. Alors voyez-vous, la parole de Dieu crée la vie physique dans la Genèse, mais crée la vie spirituelle. Fait que déjà, laissez-moi l'appliquer comme ça. Quand cette semaine, vous allez vivre une épreuve, puis ce qui va venir en vous, c'est une espèce de gros point d'interrogation ou une espèce de soupir, de désespoir ou je ne sais pas quoi. Puis tu sais, il y a comme une confusion qui est là. Tournez-vous vers la parole qui donne la vie, qui donne la vie spirituelle. Puis allez dans les Écritures, puis cherchez dans les Écritures cette vie-là. Parce que la parole de Dieu nous donne la vie spirituelle. Cette semaine, j'ai eu un moment, j'étais tellement découragé. J'ai dû aller dans la prière et dire, « Seigneur, donne-moi un passage. » Je suis allé dans les Écritures, puis j'ai pris un passage, puis j'ai dit, « Seigneur, ça, c'est la vérité dans mon chaos à moi. » Je me suis accroché à cette vérité-là, parce que c'était la lumière, c'était mon phare dans mon chaos. C'est la vie. Et donc, une autre application aussi, ça veut dire que nous, on doit apporter la parole. Si la parole de Dieu crée la vie spirituelle et que nous, on connaît la parole de Dieu, il faut qu'on ouvre la bouche. Il faut que j'ouvre la parole avec mes enfants. Parce que c'est de la parole que vient la vie. Il faut que je leur partage la parole de Dieu quand je suis avec des collègues de travail, quand je suis avec des gens qui vivent dans ce chaos-là. On a besoin de cette parole qui donne la vie. J'ai besoin de parler. C'est drôle, il y a une espèce d'écho à ça, même dans la pensée en général, dans le monde. C'est comme si les gens comprennent intuitivement une toute petite partie de cette vérité-là. Quand ça ne va pas bien, tu n'es pas chrétien, ça ne va pas bien, c'est comme tout va mal dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Quelqu'un qui t'écoute? Quelqu'un qui vient juste dire quelques mots? Dire, regarde, ça va passer, c'est juste une journée. Puis avec ces quelques mots-là, c'est vrai, là, chrétien, pas chrétien, il ramène de la vie. Il ramène de l'espoir. Maintenant, ça, c'est comme un pâle reflet des paroles qui nous sont données ici. Parce que ça, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Fils de Dieu, à travers l'Esprit Saint. Et donc, il faut qu'on donne cette parole-là. Puis ce qu'on voit ensuite, justement, au verset 14, c'est que cette parole-là s'est incarnée. Elle est devenue un être humain pour venir nous faire connaître Dieu. Fait que j'ai la parole éternelle de Dieu qui était auprès de Dieu, qui était avec Dieu, qui est Dieu le Fils, qui est présent depuis toujours avant la création du monde. Puis cette parole-là est la parole qui donne la vie, qui crée la vie. C'est à travers cette parole-là que Dieu a créé l'univers, mais qui nous donne aussi la vie spirituelle. Puis Christ est venu ensuite pour incarner cette parole-là. Pour incarner cette parole-là. Il est venu nous faire connaître en chair, comme être humain, la personne de Dieu comme elle n'avait jamais été révélée avant. Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voyez-vous, si Jésus, avant d'être Jésus, c'est Dieu le Fils, c'est la parole, il est là depuis la création, il nous parle depuis toujours. Puis il nous révèle Dieu, puis il nous révèle la vie, puis il nous révèle qui on est, puis pourquoi on est sur la terre. Puis c'est comme si après tellement de milliers d'années, c'est comme si Dieu le Fils avait dit, « OK, attendez un petit peu. » On va arrêter de parler, là. Regardez-moi, je vais le faire. Je vais arrêter de vous dire qui est Dieu, là. Je vais venir, puis faites juste me regarder. C'est comme si Dieu le Fils avait fait ça. Il s'est incarné, puis il est venu nous révéler concrètement, en devenant un homme, la personne de Dieu, comme on n'avait jamais pu le comprendre avant. Avant, c'est comme s'il nous disait « Dieu est comme ci, Dieu est comme ça », puis Dieu intervenait, mais était toujours invisible. C'est un peu comme lorsque je suis en train d'éduquer quelqu'un, d'enseigner quelqu'un, mes enfants, je suis en train de montrer, enseigner un métier à quelqu'un, puis on a comme la portion théorique, on est assis en classe, puis à un certain moment, on se dit « OK, on va aller vers les stages pratiques, je vais te mettre avec quelqu'un d'expérience, là, puis regarde, fais juste « arrête, pose plus de questions ». Tu vas voir, tout va tomber en place. Regarde-moi faire. C'est comme si Dieu a fait ça. Il s'est incarné. Et c'est ça qui était comme fantastique pour les gens qui étaient avec Jésus. C'est ça qui est extraordinaire lorsqu'on lit les évangiles. C'est que tu es là, puis là, tu le regardes vivre, tu le regardes agir, tu le regardes réagir, puis tu dis, « Ah! C'est ça, Dieu! C'est ça marcher selon Dieu. C'est ça aimer. Ça va jusque-là. C'est cette mesure-là. C'est ça qu'il voulait dire, dans le fond, dans l'Ancien Testament, quand il disait d'accueillir l'étranger, quand il disait d'aimer mon prochain, quand il disait de marcher dans la sainteté, de résister aux tentations. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Je le vois, là, c'est concret. Jésus-Christ est le summum de la révélation de la personne de Dieu. Apprendre à l'admirer, puis voir derrière l'humain qui a vécu sur la terre jusqu'à la croix, voir derrière l'humain la personne éternelle de Dieu, le Fils, puis voir après comment ça s'est incarné, puis me promener entre ces deux vérités-là, puis dire, OK, c'est pas juste que j'ai un homme qui est là, c'est que j'ai Dieu fait homme qui est là, puis je comprends qui est Dieu, comment il pense, comment il agit, puis j'apprends à le regarder. Et là aussi, il y a une application très, très concrète pour nous, très pratique. Quand tu lis la Bible puis tu arrives dans les évangiles, c'est comme une portion magique de la Bible parce que tu vois Jésus, puis là, ça devient concret, tu sais, puis c'est chaleureux, puis wow, c'est génial. C'est vrai aussi pour vous et moi. Les gens qui sont autour de nous, on peut leur apporter la parole. Cette parole-là donne la vie. Puis je dois leur donner la parole de Dieu. Je dois vraiment leur donner les saintes Écritures, la parole de Dieu, leur faire connaître Jésus-Christ, leur expliquer qui il est. Mais il est très, très, très probable que mes enfants, que mon épouse, que les gens autour de moi vont aussi avoir besoin que j'incarne ça. Que j'incarne ces principes-là, que je le fasse, qu'ils me voient les vivre, qu'ils me voient dans mes réactions avec eux. Parce que moi, j'ai eu besoin de le voir pour comprendre Dieu. Et d'une manière très réelle et très biblique, je suis appelé dans un sens à être Jésus pour les gens autour de moi, jusqu'à ce que je puisse les conduire directement à la personne de Christ. Mais ils vont voir les bonnes œuvres que je fais dans ma vie, et éventuellement, ils vont pouvoir glorifier mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'en me regardant vivre, ils vont dire, « Ah, c'est ça être un chrétien. C'est ça un disciple de Christ. Je t'ai vu réagir l'autre fois, j'étais comme, « Comment? Pourquoi il réagit comme ça? C'est tellement bon. Pourquoi il a accepté ça? Pourquoi il a réagi de cette manière-là? Pourquoi il fait ces choix-là? Pourquoi il fait ces sacrifices-là? Pourquoi il est encore là? Pourquoi il est encore là à m'aimer? Pourquoi il m'accueille encore? Pourquoi il est encore disponible? Pourquoi il marche comme ça? Pourquoi il est toujours en train de prier? » Là, je comprends c'est quoi le christianisme. Là, je comprends qui est Dieu. Et ça ne sera pas suffisant, mon témoignage de vie. Le témoignage d'Emmanuel Hippolyte vendredi soir, ça ne sera pas suffisant. J'ai besoin d'apporter la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Mais vos enfants, nos conjoints, nos amis, nos collègues de travail ont besoin aussi, comme on avait besoin que la parole de Dieu s'incarne, que nous, on incarne ce message-là avec intégrité, avec humilité. On n'est pas Jésus, tu sais, c'est la première affaire que tu dis, hein? Moi, je ne suis pas Jésus, fait que regarde, mais sois gracieux, s'il te plaît. Tu sais, quand tu vois des bons coups, donne-les à Jésus. Quand tu vois des mauvais coups, dis-toi que c'est Yannick, tu sais. Puis de temps en temps, viens me voir, je vais te présenter vraiment Jésus dans les Écritures parce que autrement, tu vas être bien déçu de Jésus si tu penses que c'est juste Yannick. Tu sais. Puis c'est ça qu'on fait avec nos enfants. Hein? C'est ça qu'on fait lorsqu'on va demander pardon. Je demande pardon, j'ai été un mauvais témoignage. Tu sais. Mais si ça te tente de voir vraiment un bon témoignage, je vais te présenter un autre homme. Entremetteur, on est des entremetteurs, on présente Jésus-Christ, c'est ça qu'on fait. Alors, il s'est incarné, et on arrive à la fin de l'Évangile. À la fin de l'Évangile, où, à un moment crucial, la parole va se taire. La parole va faire silence. Parce que sa mission, c'était de venir sur la terre, nous faire connaître le Père, puis à un certain moment donné, se taire complètement. À la toute fin de l'Évangile de Jean, Jean 19, 25 à 30, je vous lis ça. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, était venu accomplir sa mission, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. La parole de Dieu s'est tue. Et à ce moment-là, lorsque la parole de Dieu s'est tue, lorsque Jésus-Christ a fait silence, le plus beau moment qui pouvait nous révéler l'amour de Dieu pour nous, le sacrifice de Jésus sur la croix est accompli. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il va ressusciter d'entre les morts, on va célébrer ça dimanche prochain. Mais comprenez-vous que ce n'est pas juste Jésus de Nazareth qui s'est tué? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu le Fils qui a fait silence à ce moment-là parce qu'il était venu accomplir le cœur de sa mission. Il était venu nous faire connaître le Père comme personne ne pourrait le connaître et était venu nous acquérir la possibilité d'être pardonné de nos péchés par son sacrifice à la croix. C'est le moment où la parole de Dieu meurt avant de renaître et de ressusciter d'entre les morts. Cette semaine, je veux vous inviter à prendre le temps de lire puis de relire ce passage-là dans Jean 1, 1 à 14. Allez lire la fin de l'Évangile de Jean. Allez lire la fin des trois autres évangiles. Méditez la parole de Dieu en réalisant que ce n'est pas juste Jésus de Nazareth qui est venu. Et si ce matin, tu comprends que ce n'est pas juste un homme qui a des principes à nous enseigner, il était plus qu'un homme. Ou si tu te poses des questions, va lire les évangiles. Va lire les évangiles. Voyez-vous, les premiers disciples, après avoir côtoyé Jésus autant, manquaient de catégorie pour dire, mais il est qui ce gars-là? Il est trop extraordinaire. Puis l'Esprit leur a révélé. Il était plus qu'un homme. C'est la Sainte Trinité qui apparaît ici. C'est la divinité de Christ qui apparaît ici. Il était au commencement du monde. Et ils ont compris qui il était. Et parce qu'ils ont compris qui il était, ils ont pu saisir la grandeur et la beauté de l'amour de Dieu pour nous. La grandeur de son sacrifice, ce n'est pas un simple homme qui meurt à la croix. Il meurt dans son humanité, mais il vient s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Écoutez, cette semaine, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. On fête la Pâque ensemble. C'est le moment d'ouvrir la bouche, de parler de Jésus. C'est le moment pour les Québécois qui ont perdu beaucoup, beaucoup leurs racines judéo-chrétiennes, de dire, écoute, sais-tu c'est quoi Pâques? S'attends-tu de savoir c'est quoi? Viens vendredi soir, viens écouter Emmanuel Hippolyte. Emmanuel, c'est un slammer. C'est simple ce qu'il fait, c'est de la poésie qui est mise sur musique, mais on a demandé à Emmanuel, puis je veux parler encore avec lui cette semaine, puis on lui a demandé de venir nous raconter son histoire. Parce que cette parole qui donne la vie, c'est une parole qu'on doit donner aussi. Christ donne sa vie sur la croix, mais on doit donner la parole pour qu'il nous apporte la vie éternelle. Il faut partager l'Évangile. et vous avez des amis, vous avez des gens dans votre famille qui ont besoin d'entendre un témoignage, le témoignage d'une vie qui a reçu la parole de Dieu dans sa vie, puis qui a compris comment on faisait pour naître de nouveau, invitez-les vendredi soir à venir l'écouter. Invitez-les à venir dimanche matin prochain pour célébrer avec nous Pâques la résurrection de Jésus-Christ. On va aller dans un mot de prière, puis on va regarder encore une fois le vidéo de présentation d'Emmanuel, puis vous avez des cartons d'invitation. Invitez des amis, s'il vous plaît. Puis cette semaine, allons ensemble méditer dans les Écritures le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut te célébrer, on veut t'adorer, on veut élever ton saint nom. Seigneur, c'est la fête de la Pâque qu'on va souligner, puis c'est un moment vraiment majestueux parce que tu es un être extraordinaire, Seigneur. Tu n'étais pas simplement un modèle, un homme sage, tu es Dieu le Fils qui a quitté la gloire de son Père, toi qui as présidé à la création de l'univers, toi par qui Dieu a tout créé. Seigneur, cette semaine, on veut aller boire ta parole en sachant que c'est toi qui parles, Dieu le Fils, à travers chacune des pages de la Bible. C'est toi qui nous fais connaître Dieu. On veut aller voir comment tu l'as incarné concrètement, Seigneur. On veut aller méditer sur ton sacrifice à la croix pour nous, Seigneur. Ce moment où tu as fait silence, puis tu as accepté de prendre sur tes épaules le poids de nos péchés, Seigneur. Père, je te prie pour cette soirée qu'on va avoir vendredi soir. Seigneur, amène des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Amène des gens qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Amène des gens qui ont besoin de l'entendre à travers un témoignage de vie transformé par Jésus-Christ, Seigneur. Donne-nous d'ouvrir la bouche pour parler de toi. Donne-nous, Seigneur, d'incarner la parole de Dieu pour nos enfants, pour les gens autour de nous. Seigneur, on veut t'adorer, te célébrer ensemble ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen.